Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue au nom du comité des cafés scientifiques neuchâtelois à cette première session d'ouverture de la saison de l'année scolaire 2013-2014. Qui dit rentrée pense aussitôt à littérature, entrée littéraire. Donc c'est pour ça que nous avons choisi à cette date un sujet plutôt sciences humaines et littéraire en l'occurrence, mais avec une thématique, je pense, qui devrait nous concerner tous, assez grave, assez dramatique souvent, et qui, pour le coup, va nous permettre de passer cette heure et demie ensemble à débattre de cette question. Je voudrais remercier, avant de commencer, les fidèles à la technique, Roland Hamsler, qui va nous accompagner encore cette saison durant et qui a toujours assuré le son sans faille, ainsi que les enregistrements que vous pourrez retrouver ensuite sur notre site web. Et dans la salle également, quelques images seront prises pour alimenter les réseaux sociaux et faire écho un peu plus loin en images et en vidéo et en son de cette manifestation. Alors, le sujet de ce soir, écrivain, tueur, cherche, éditeur, est venu à la suite d'une discussion que nous avons eue par rapport à cette publication de Richard Millet l'année dernière, qui avait suscité pas mal de tollé, surtout en France. C'était un livre qui s'est inspiré des 1500 pages qu'avait rédigé le tueur Anders Breivik pour justifier quelque part son acte absolument ignoble. Et là-dessus est venu se greffer, je l'apprends à l'instant, une actualité encore plus brûlante que m'a rapporté Isabelle Falconier, ici présente, et dont elle vous parlera juste après cette brève introduction. Donc, vous l'avez vu, les exemples, malheureusement, ne manquent pas de ces faits tragiques qui inspirent des actes artistiques par la suite. Ici, en Suisse, il y a 2-3 semaines à peine, s'est jouée une pièce de théâtre à Saint-Pré, avec John Malkovich dans le rôle-titre. Et cette pièce s'intitulait « La comédie infernale ». Elle était en fait basé sur l'autobiographie d'un serial killer, en l'occurrence Jack Unterweger, qui avait défrayé la chronique dans les années 70 et qui s'est suicidé en 1994. L'histoire de Unterweger est assez saisissante dans la mesure où, après 20 ans, une vingtaine d'années passées en prison, il a été jugé comme un exemple de réhabilitation et c'est à la suite de sa libération qu'il a commis plus d'une dizaine de meurtres en une année, ou d'assassinats, c'est selon. Donc, à côté de cette actualité, cette accroche, pour en parler, je voudrais maintenant me tourner vers les intervenants. Un panel de choix, comme vous avez pu le lire dans le programme, puisque nous avons la chance d'avoir tout d'abord Madame Isabelle Falconier, qui est, comme vous le savez, présidente du Salon du Livre et de la presse de Genève, et qui a également l'auteur de savoureuses chroniques dans l'hebdo, qu'on manque rarement. Il y a également M. Pascal Vandenberg, directeur général de Payot, que je remercie encore pour sa présence ici. Également, à la droite de Mme Falconier, Daniel Cornu. Daniel Cornu est un spécialiste de la déontologie des médias et il va ici nous apporter ses lumières, surtout du point de vue de ce que la morale peut autoriser ou non à faire. C'est un peu en cela que nous avons songé à l'inviter. Et enfin, Madame Muriel Pic, qui est, vous me corrigerez après, professeure boursière, c'est juste, ou voilà, professeure boursière en littérature ici à Neuchâtel. Et elle est une spécialiste de la littérature du XXe siècle et a entre autres analysé Mein Kampf dans quelques-unes de ses publications. Voilà, Donc pour un premier tour, maintenant, j'inviterai peut-être chacun à directement enchaîner avec une première interrogation pour lancer peut-être un peu la discussion. Donc, vous pouvez nous parler de vos exemples d'actualité et puis aussi de nous dire peut-être votre sentiment par rapport au fait que ces auteurs de crimes atroces, finalement, ils nous fascinent quand même, malgré l'horreur de leurs actes. Alors, pourquoi cette fascination, selon vous ? Je vous laisse la parole. Peut-être d'abord Isabelle Falconier.
Oui, merci Igor. Je commencerai par me permettre poliment de vous reprendre. Vous dites que les exemples ne manquent malheureusement pas, mais moi je dis les exemples ne manquent heureusement pas. Et effectivement, tous ceux que la thématique passionne se plongeront dans un livre qui est apparu il y a à peine quelques jours, qui s'appelle Utøya. Donc Utøya, c'est évidemment le nom de l'île sur laquelle le tueur Anders Breivik a commis quelques dizaines de crimes en 2011. Et un écrivain journaliste français qui s'appelle Laurent Oberthorn s'en empare à son tour. Voilà, et ça donne un roman qui vient de paraître, Utøya. Donc c'est un exemple récent en date, mais on verra dans le cours de la conversation que chaque année, il y en a des dizaines, soit officiels, c'est-à-dire qui se revendiquent ouvertement d'un fait divers, d'un crime, qu'il soit récent ou ancien, mais il y en a des dizaines, des centaines en langue française qui s'inspirent officieusement, sans le dire inofficiellement, évidemment, et là on parle de tout le vaste champ du polar, qui évidemment dans le fond de commerce est le meurtre, le crime de sang, et dont les auteurs évidemment s'inspirent de la vie, telle qu'on la dure réalité. Et donc Laurent Oberthorn, pour Utøya, s'est mis, pour son roman Utøya, il s'est mis dans la peau, et c'est là aussi que ça deviendra intéressant, je pense, quand on aura une discussion sur le genre littéraire, dans la peau du tueur. Il raconte à la première personne les quelques heures que le tueur a passées sur l'île en faisant des allers-retours. Ça en fait un livre stylistiquement très intéressant. Le monologue intérieur du tueur est entrecoupé d'extraits des rapports médicaux, des rapports légistes et de quelques citations de témoins, toutes réelles. Voilà un fait d'actualité qui est mon actualité, puisqu'effectivement je suis critique littéraire à l'Hebdo, et donc quand quelque chose, un livre comme cela sort et provoque un débat, c'est l'occasion de s'en emparer, effectivement.
Peut-être Pascal Vandenberg, une actualité de votre côté par rapport à cette question, ou alors la deuxième question, pourquoi est-ce que ces actes nous fascinent?
Ça, il faudrait poser la question à un sociologue ou peut-être même à un psychiatre. Moi, je ne suis pas du tout habilité à répondre. Je pense aussi parce que du côté des médias, et c'est peut-être plutôt Daniel Cornu, Isabelle, qui peuvent se prononcer sur cette question, mais je veux dire, on incite quand même. Qu'est-ce qui est l'œuf et qu'est-ce qui est la poule? Est-ce que cette mise en avant assez forte de ce genre d'affaires dans la presse n'est pas ce qui crée le désir d'eux? Ça dépend des supports médiatiques, mais enfin, certains sont quand même spécialisés là-dedans, que ce soit ici ou ailleurs. Sur le fond, moi, je dirais que dès lors qu'on est dans une œuvre de fiction, qu'on soit au cinéma, au théâtre, en livre ou en peinture ou dans n'importe quel forme artistique, dès qu'on est dans une création artistique, que l'histoire soit tirée d'un fait réel ou de l'imagination pure de l'auteur n'a strictement aucune importance. On est dans de la fiction. Si vous enlevez le rapport à la réalité, vous pouvez supprimer du catalogue beaucoup de films. Les pièces de théâtre et les tragédies, j'en parle même pas, en remontant même chez les Grecs. Donc voilà, la question se pose pas. La limite, elle est sur les œuvres de fiction. Donc, est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut tout écrire? Pour moi, la réponse est oui. Après, personne n'est obligé de le lire. Si dès lors qu'on est dans de la fiction, nommément fiction. Il y a eu l'affaire Stern qui a été portée aussi. Enfin, voilà, ça... Je dirais que ça peut être utile pour des auteurs en mal d'imagination qui vont partir d'un fait divers. Ça peut avoir du sens. Je n'ai pas regardé le livre dont Isabelle parlait. Peut-être que sur la forme de ce que tu dis, ça peut être intéressant d'avoir cette espèce d'imaginaire entrecoupé d'éléments réels. Mais si on titre roman, on n'est pas dans l'apologie de quoi que ce soit. Et là, on parle de meurtre, mais on peut parler d'autre chose.
Ce qui est clair, c'est que ça part toujours d'une envie de comprendre. Et c'est évidemment que, en ce qui concerne la fiction, je rejoins totalement Pascal Vandenberg, un auteur de fiction a tous les droits. Même celui d'entrer dans la tête de qui que ce soit, du tueur, même de la mère du petit Grégory. On se souvient de Philippe Besson qui s'était emparé de l'affaire dite du petit Grégory, qui était d'ailleurs le premier titre d'une collection consacrée aux faits divers chez Grasset, qui s'appelle toujours « Ceci n'est pas un fait divers ». On voit que l'intérêt est très clair de la part du monde éditorial, on y viendra sûrement. Et Philippe Besson s'était mis dans la peau non pas du potentiel assassin ou tueur, mais de la mère du petit Grégory. On se souvient que ça avait causé un grand scandale. Et là aussi, Laurent Bortone, donc l'auteur de ce roman qui vient de sortir, Utoya, le reproche qu'on lui fait, c'est « Mais comment oses-tu entrer dans la peau du tueur ?» Ce qui veut dire que, sans l'avoir rencontré, il revendique de ne pas l'avoir rencontré. Il dit « J'aurais pu, mais je sais comment il m'aurait manipulé. Mais malgré tout, je pense que j'ai compris qui il était. Et le monstre qu'il est devenu et le monstre qu'il a fait, l'acte monstrueux qu'il a fait, et la fiction en tant que tentative, instrument de compréhension de la réalité et de la nature humaine, surtout, et à mon avis d'une très très grande efficacité, et on serait bien bête d'avoir la tentation de se priver de cet outil de compréhension de la nature humaine qui est complémentaire à tous les autres, à la sociologie, à la psychologie, à la psychanalyse, aux experts balistiques. Voilà, c'est un outil qui est à prendre très au sérieux, qui n'est souvent pas assez, de tentative de comprendre la nature humaine, qui est les artistes sont là pour ça, et ils sont là pour nous aider, entre autres, nous, lecteurs, et autres êtres humains, à comprendre ces actes qui font partie, hélas, de la réalité, et que nous devons tenter de comprendre pour ne pas ensuite rester uniquement dans l'horreur et la sidération.
Muriel Pic, vous voulez...
Oui, bonjour. Donc, vous demandiez pourquoi ces actes fascinent. Donc, en règle générale, je pense qu'il faut se demander plutôt comment que pourquoi. On va tout de suite beaucoup plus loin. Et je pense qu'effectivement, là, comme le soulignait ma collègue, là, la forme littéraire est importante. Comment on raconte quel pacte, hein, puisque vous parliez du mettre roman sur un ouvrage, mais mettre roman sur un ouvrage, je suis désolée, ça ne donne pas le droit de tout dire, de tout faire, de cracher par exemple sur le nom de personnes réelles. Par exemple, dans Les Bienveillantes, il y a des noms de personnes réelles qui sont extraites d'archives historiques, qui sont associées à des stéréotypes littéraires diffamants. Donc on les tue deux fois, en fait, les victimes. Personnellement, moi, je travaille sur la littérature et son rapport aux documents. Donc, je pense que c'est pour ça que vous m'avez invité. On a très, très vite fait cette invitation. Hein. Je ne me suis pas très bien présentée auprès de vous. Je vous prie de m'excuser. Je me suis un petit peu intéressée à Mein Kampf parce que j'ai travaillé sur un auteur qui s'appelle W.G. Sebald, un auteur allemand, qui travaille à partir de documents et qui se demande qu'est-ce qu'on fait pour la mémoire et l'identité nationale allemande. Du génocide, hein. Qu'est-ce qu'on fait du crime contre l'humanité, et lui, en fait, sa démarche est plutôt de s'identifier aux victimes plutôt qu'aux bourreaux. Alors, ce qu'il dit, c'est assez intéressant, il dit qu'à partir du moment où il travaille en empathie, hein, c'est quand le point de vue est en empathie avec la victime, il devient aussi bourreau de lui-même, hein, puisqu'il se met à souffrir comme la victime a souffert. Donc il y a toujours une dialectique qui est en place. Or, cette dialectique, je pense que dans un ouvrage comme celui de Millet, elle n'est pas présente. Pas du tout. Enfin, j'ai pas réussi à le lire. J'ai lu des comptes rendus. Je suis pas capable de donner un sou pour ce genre de livre. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a trop d'imbéciles qui se lèvent tôt le matin. ou pas tôt, enfin qui se lèvent tout court le matin, pardon. Pour moi, ce type d'ouvrage voilà, est proprement révoltant et met en danger la fiction, d'autant que le statut de la fiction est en danger, hein, depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque la fiction a été un des outils de propagande du national-socialisme et l'imagination. Si vous lisez, par exemple, Le système totalitaire de Hannah Arendt, vous verrez que, constamment, ce qu'elle n'arrête pas de dire, c'est que Hitler a réussi à mettre en place, à produire une réalité à partir de l'imagination. Voilà. Et je pense que, depuis cet événement-là, la fiction a un devoir éthique beaucoup plus important encore qu'auparavant. Sinon, je trouve que la démarche de Millet de dire que le crime est parfait, enfin, de s'extasier sur la perfection du crime, n'est pas très originale, puisqu'il y a bien sûr il y a Thomas de Quincey qui a fait ça en 1827, de l'assassinat commun des Beaux-Arts. Je disais, j'articule pas assez. Ah, d'accord. Pardon. Oui, j'ai toujours parlé dans ma barbe, en fait. je disais que la démarche de Millet, en même temps, ne me semblait pas très originale, puisque Thomas de Quincey a déjà publié de l'assassinat comme un des beaux-arts en 1827, où le crime, comme ça, dans sa perfection, est un modèle de réussite esthétique et littéraire. Voilà, donc il y a déjà eu un précédent, mais là c'est un essai, le contrat de fiction n'est pas le même, et puis surtout on est dans un autre contexte, on est dans le contexte de l'humour noir anglais et dans la fascination du roman policier. Donc la perfection du crime pour de Quincey, c'est la perfection de dissimuler les traces et de savoir les lire, d'enquêter et de savoir entrer dans la peau du malfaiteur, mais pour réussir à mettre en place un système de lecture. Donc c'est vraiment un modèle intellectuel, un modèle herméneutique, en fait, le roman policier. C'est pour ça qu'il fascine.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Qui interprète, en fait, un modèle interprétatif des traces. Voilà. Mais j'y reviendrai plus tard.
Monsieur Van den Bell veut réagir, puis après j'aimerais quand même donner la parole à Daniel Cornu.
Oui, non, je voulais réagir sur Richard Millet, parce que d'abord, ce n'est pas un livre, c'est un texte, c'est un essai dans un livre, et c'est un essai, ce n'est pas une fiction. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Moi, je l'ai lu, je n'ai pas mis un sou, rassurez-vous pour ça. Je trouve que c'est une approche, disons, intellectuelle et esthétique, idiote, certes, mais ce n'est pas une fiction. Donc, je ne mets pas ça sur le même plan. Sinon, voilà. Mais on a connu ça aussi avec Marguerite Duras bien avant, avec le sublime, forcément sublime, puisque tu parlais de l'affaire Grégory. Donc, on a régulièrement des intellectuels comme ça qui passent dans une autre dimension et qui pondent des choses totalement idiotes. Là, quand je parle de fiction tout à l'heure et vous parlez des bienveillantes et des noms propres qu'on salit. Je parle de fiction, moi, dans lesquelles il n'y a pas de noms propres. Hein, je parle de vraie fiction dans laquelle, même si on s'inspire de toute chose vraie, il n'y a effectivement pas... on peut reconnaître éventuellement des personnes, mais on ne les nomme pas. Sinon, on n'est plus de toute façon dans une vraie fiction. On doit le transformer de cette manière-là. Les bienveillantes avaient bien d'autres défauts qui peuvent justifier qu'on le critique. Mais je fais bien la différence entre roman ou fiction, si vous voulez, essai et document qui n'ont pas du tout la même fonction. Mais si vous lisez Millennium, vous vous dites, si c'est un fait réel, c'est totalement abject et horrible, cette histoire. Mais quelle importance ! Parce qu'on sait que ça peut arriver. C'est pour ça qu'on lit le roman.
Juste, c'est vrai que là, on est entré dans le vaste débat de le roman peut-il influencer le lecteur, hein, vous avez soulevé, que ce soit le roman ou que ce soit n'importe quel texte. Moi, je pense que non, qu'aucun lecteur, après avoir lu, que ce soit le texte, l'essai effectivement de Millet ou le roman de Laurent Oberton, ne prendra un fusil et ira, voilà. Ça n'a aucun sens. C'est la même réflexion qu'avec les jeux vidéo et j'ai le même avis. C'est-à-dire que un lecteur Ce n'est pas la lecture d'un, ce n'est pas à partir de la lecture d'un livre qu'il va changer de nature, de comportement, d'envie, etc. On ne trouve dans un livre que ce qu'on ne veut bien y trouver. Je sais pas, Mazarine Pinjot, vous vous souvenez, elle a écrit un roman qui s'inspirait de cette femme qui avait congelé, de l'affaire Courgeot, hein, qui avait congelé, qui avait mis au monde des bébés, qui les avait mis dans le congélateur, qu'on avait retrouvé quelques années après. Ça s'appelait Le cimetière des poupées. Mais aucune femme qui ne lit ce roman ne va mettre au monde des bébés et les mettre dans un congélateur. Soit on a en soi une névrose profonde, une maladie quelconque qui fait que dans sa vie on va passer à cet acte-là, à vivre ça. Je crois profondément à l'intelligence du lecteur. Le simple acte de lire de la fiction, le simple acte en tant qu'écrivain d'écrire de la fiction est déjà un acte de distanciation, d'analyse, de tentative de comprendre. Ça ne se passe jamais aussi directement. Donc la peur qu'on a de dire « Ouh là là, il ne faudrait pas s'attaquer à certains sujets, ça va donner des idées au lecteur, à la population, aux âmes influençables. » Non. Pour moi, on est à côté de la plaque. Les idées qui ont été propagées dans des livres extrémistes existaient avant ces livres, existent après, que ces livres aient été écrits ou pas, que les auteurs soient encore vivants ou pas.
Daniel Cornu, voilà.
C'est une position doublement difficile. D'abord, quand on est le dernier à parler, on ne sait plus ce qu'il faut dire, qui n'a été dit. Et puis, deuxièmement, c'est une position difficile parce que, comme très souvent dans ce genre de débat, je suis présenté comme le moralisateur de service et on attend de moi, je dis c'est bien, c'est pas bien, c'est pas ce que je vais faire. Je vais revenir à la question qui a été posée par M. Chlebny. Pourquoi les auteurs de crimes de sang fascinent-ils malgré l'horreur de leurs actes? D'abord, je suis d'accord avec l'un des intervenants précédents quand il a dit qu'au fond, la réponse ne peut être donnée que par des sociologues, j'ajouterais anthropologues, psychologues, psychiatres, comme il l'a aussi mentionné. Alors, je ne le suis pas, je suis un ancien journaliste qui s'est intéressé de près au fonctionnement du journalisme, au fonctionnement des médias et aux enjeux éthiques de leurs activités. Alors, ce qui m'intéresse dans la question posée, c'est au fond de discerner la part de responsabilité des médias dans cette fascination. Et c'est peut-être pour dire en préambule que cette fascination a toujours existé. Il existe un livre d'un historien qui s'appelle Maurice Lévert, qui s'appelle Canard sanglant, canard comme on traitait les journaux d'autrefois, donc au pluriel, ce n'est pas le canard au sang qui sort du four, mais les canards sanglants, qui est une sorte de florilège de récits de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, absolument édifiant dans tous les sens, parce qu'on y montrait des situations abominables, et puis en même temps, on essayait d'en tirer une morale, comment faire pour se bien conduire, plutôt que de céder à ces tentations affreuses dont les récits faisaient étalage. On peut aussi rappeler qu'en Suisse, l'un des tout premiers journaux qui est paru à la même époque était intitulé, c'était en Suisse alémanique, Wahrhaftige und erschreckliche Neue Zeitung, autrement dit, nouveau journal véridique et effrayant. Voilà qui, disons, donnait déjà une certaine direction. Et puis plus tard, on a eu l'avènement médiatique des grands criminels, Lavoisin, à la fin du XVIIe, qui était célèbre pour ses crimes, et notamment des avortements, mêlés à l'affaire dite des poisons, Jacques l'Éventreur, Landru, ou encore plus récemment, Richard Speck, le monstre de Chicago, accusé d'avoir assassiné 8 infirmières, excusez du peu, et c'était en 1966. Eh bien, le monstre de Chicago a reçu des lettres d'amour dans sa prison. Autrement dit, Breivik, qui fait l'actualité, dispose d'une belle galerie d'ancêtres. Maintenant, si on se tourne du côté des gens que nous ne sommes pas, c'est-à-dire de spécialistes relevant plutôt de compétences de la psychiatrie, je vous recommande la lecture d'un livre qui s'appelle « Victime et victimologie », qui a deux auteurs, Gina Filizzola et Gérard Lopez, et qui relève, dès la troisième ligne, c'est un petit que sais-je, donc à tous égards très accessible, relève dès la troisième ligne que la victime est l'otage médiatique utilisé pour, je cite, attirer l'attention du public. Exemple, Rwanda, émission sur les femmes battues, les victimes d'attentats, les victimes de guerre, etc. Et les auteurs opposent le rôle, ou plutôt la figure de cette victime otage au statut du criminel qui est, écrivent-ils, le héros d'innombrables œuvres littéraires, cinématographiques, philosophiques, anthropologiques. Donc il y a une opposition entre la victime otage et le criminel héros. La victime sert d'appât, mais très vite, c'est le bourreau ou le criminel qui prend la première place. Alors, exemple, on a déjà parlé de l'affaire Grégory, je n'y reviens pas, mais le petit Grégory, on n'a pas beaucoup parlé, mais on a beaucoup parlé de Robert Laroche, qui était un des protagonistes de l'affaire, puis de la mère Christine Villemain, qui a été, avant d'être l'objet d'un long lieu, mais après de 9 ans, aussi soupçonnée, ce qui a effectivement incité Duras, et la fiction littéraire pointait son nez à la qualifier de sublime, forcément sublime. Il y a aussi eu, en Belgique, plus près de nous, en 1995, l'affaire de ces deux petites filles disparues, Judith et Mélissa, qui a provoqué un grand emballement médiatique et enfin, soulevé une très forte émotion populaire. Mais c'est bien évidemment Dutroux, le meurtrier, qui laisse son nom à l'une de ces abominables affaires criminelles. Et encore plus près de nous, ce printemps, vous savez tous que dans le canton de Vaud, il y a eu l'assassinat d'une très jeune fille, Marie, dont l'assassin, dont je dois dire aujourd'hui, pour être très respectueux du droit présumé, car il n'est pas encore jugé, mais osons le dire, non, je ne le dirai pas, puisque c'est diffusé et enregistré, mais l'assassin présumé s'est très rapidement imposé comme la figure centrale de ce fait divers. Et d'une manière très significative aussi, le mois dernier, au mois d'août, je crois que c'était le 22 août, dans une page commune, le journal 24 heures de Lausanne et la Tribune de Genève ont analysé de manière très intéressante la question du problème de l'internement à vie à propos de cette affaire-là. Et comme par hasard, la page était illustrée d'une immense photographie en couleur de l'assassin en présumé en question. Donc tout ça nous pose un certain nombre de problèmes et il faut bien voir qu'il y a, oui, c'est la poule et l'œuf, mais quand même une relation entre cette fascination pour les littéraires, cette fascination littéraire, et puis le rôle en amont des médias. Cela dit, je ne dirais pas que M. Van der Berg, malgré tout le respect que je lui porte, que le fait divers est le recours d'auteurs en manque d'imagination, parce que je vous rappelle quand même que Le Rouge et le Noir, avec pour point de départ un fait divers, que Madame Bovary, c'était un suicide que Flaubert a utilisé comme inspiration, puis que aussi le malentendu de Camus repose sur un fait divers authentiques. Je ne pense pas que ces divers auteurs aient fait preuve de manque d'imagination dans d'autres circonstances.
À ce stade-là, je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle, parce que c'est un peu la règle. Ce café est le vôtre, hein, donc n'hésitez pas à faire une remarque, à poser une question, quelque chose qui vous titille. Il ne faut pas être timide. Oui, ben voilà, deux questions. Alors, au fond, alors d'abord monsieur, puis après.
Merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. Jean-Jacques Aubert, de la Faculté des Lettres. En relisant le titre, donc le descriptif de ce café scientifique, je constate qu'en fait, il est fait, disons, il s'articule sur deux axes. L'un où on prend le fait divers comme objet de la littérature, et puis l'autre, on prend le fait divers comme étant, disons, émanant, en fait, d'un auteur qui serait responsable du fait divers et puis qui s'exprimerait par exemple, c'est le cas de Mein Kampf de Hitler, qui est cité dans le descriptif. Et puis, évidemment, il me semble que la problématique est un peu différente selon qu'on s'oriente vers un volet ou vers l'autre. Puis j'aimerais bien revenir sur le volet de l'auteur criminel dont l'œuvre va être diffusée et va peut-être donner lieu à, à un public, à un lectorat. Et puis, évidemment, tout ça est légitimé par le fait que c'est vrai que peu de personnes ont lu Mein Kampf, n'est-ce pas ? Et puis, c'est lié au fait qu'il n'est pas directement accessible. Et puis, on voit venir la perspective d'une popularisation de ce livre au moment où les droits seront libérés en 2016. Ça pose problème, n'est-ce pas ? Mais on peut se dire que dans l'histoire, on a eu d'autres cas qui se sont présentés avant. Étant professeur de littérature de l'Antiquité, j'aimerais faire référence à la guerre des Gaules de Jules César, n'est-ce pas ? Qui a été lu abondamment par des générations et des générations d'élèves à l'école secondaire et au lycée. Et puis finalement, l'auteur qui se cache derrière les commentaires sur la guerre des Gaules, c'est-à-dire Jules César, était à l'origine d'un grand massacre, puisqu'on évalue en fait que la guerre des Gaules a fait à peu près 1 million de morts. Et puis la question que je me pose, c'est à partir de quel moment, n'est-ce pas, le temps est rédempteur, c'est-à-dire à partir de quel moment on peut dire que le crime contre l'humanité, disons, qui devient sujet de littérature, n'est plus incriminant pour l'auteur. C'est toujours le cas pour Hitler, c'est plus le cas pour Jules César, mais quelle est la durée qu'il faudra, disons, envisager pour que, disons, l'objet littéraire trouve une certaine honorabilité ?
Alors voilà, ben je laisse chacun d'entre vous le soin de répondre, peut-être.
Juste pour Mein Kampf, il tombe dans le domaine public en 2015. Enfin, d'après le, j'ai relu l'article, il y a eu un article dans Le Monde qui a été co-signé par plusieurs historiens. Ils annoncent l'arrivée, enfin le. Ils donnent la date de 2015 pour l'arrivée de Mein Kampf.
Alors peut-être, mais bon, c'est égal.
Peut-être les auteurs se trompent. Enfin bon, 2015-2016, en tout cas, c'est bientôt. Oui. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire, en fait. Hein. Puisque en France, toute publication doit être accompagnée d'un avertissement. Et à partir du moment où c'est passé dans le domaine Internet, ce qui avait été édité dans la loi de 79 sur les précautions d'édition à prendre sur Mein Kampf a complètement été... n'a plus du tout été respecté par les sites internet et la plupart des sites douteux nationalistes toute forme de nationalisme trouve sa bonne phrase dans Mein Kampf hein, tout site douteux de ce type là peut donner des fragments avec des traductions surtout en français maintenant les historiens proposent, et moi je suis d'accord avec ça, de le republier avec un appareil critique qui explique quand même, qui le réinscrit dans son contexte historique, qui en redonne les sources, qui donne une inscription biographique, qui redit qui est l'auteur, etc. Je pense que c'est la solution la plus sage en fait. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas un objet littéraire.
Alors, c'est sur ce sujet-là, moi j'ai été pris à partie... Il y a un peu plus d'un an, par un journaliste du Matin qui a découvert qu'on avait Mein Kampf dans les rayons de nos librairies. Puis quand un journaliste découvre quelque chose, c'est que ça vient d'arriver, hein, vous savez, dans son esprit. Et donc il a fait une page là-dessus pour dire que Payot vendait Mein Kampf et que c'était un scandale. Alors j'allais... En plus, il a évidemment sorti, il m'a interrogé par téléphone et il a évidemment pris une phrase hors contexte pour agrémenter l'article qui, prise comme ça, effectivement, était un petit peu déplacée. Mais je n'allais pas répondre dans Le Matin, donc j'ai publié une tribune dans Le Temps avec en face de moi Madame Brunschvicht-Graf qui prenait une position par rapport à Mein Kampf. Alors, en fait, le régime de Mein Kampf depuis 1945 est très variable selon les pays. Il est interdit en langue allemande, en tant qu'édition papier, je parle. Dans certains pays, il est autorisé de l'avoir, mais interdit de le vendre. Les Pays-Bas, par exemple, c'est un peu le comble de l'hypocrisie, c'est comme ça. Alors, ce n'est pas une loi, c'est un jugement de la Cour d'appel de Versailles de 79, en France, qui autorise la commercialisation par les nouvelles éditions latines, donc l'éditeur de Mein Kampf, à condition qu'il soit toujours accompagné d'un avertissement assez long, imprimé normalement dans un papier d'une autre couleur, qui raconte quand même ce que ce livre a provoqué. Mais c'était ça qui était intéressant dans l'attaque finalement du matin, c'était de voir le poids symbolique du livre en tant qu'objet et de la librairie en tant que lieu. Parce que pour faire la réponse, ou en tout cas la tribune dans le temps, j'ai fait un truc très simple, je suis allé sur Google, j'ai tapé Mein Kampf, et puis en deux clics, j'ai trouvé l'édition intégrale gratuite en français sans l'avertissement, alors que nous, on le vend 60 francs avec l'avertissement, et qu'on est montré du doigt. Donc je pense que la question de la diffusion ou pas se complique avec l'Internet aujourd'hui. Alors il y a une commission, au-delà de, j'avais lu ce papier aussi, mais au-delà de ça, il y a depuis assez longtemps, un an ou deux, une commission d'intellectuels au niveau européen, de la Commission européenne, qui sont en train d'essayer d'imaginer une manière de ne pas enfreindre le droit, parce que le problème, c'est quoi ? C'est qu'un ouvrage tombe dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur. Alors, comme vous le savez tous, Hitler s'est suicidé en 1945, et du coup, de fait, le livre tombe dans le domaine public, alors, à ma connaissance, au 1er janvier 2016, pour des raisons d'arrondi, je pense, de date. Depuis 1945, l'ayant droit de ce livre, c'est le Land de Bavière. Et le Land de Bavière accorde le droit d'imprimer ou pas en fonction d'un certain nombre de critères des pays qui font la demande. Donc il y a un encadrement. Mais c'est vrai qu'avec l'Internet aujourd'hui, la question a un petit peu moins de sens. Alors si je me place maintenant du point de vue du libraire et de la commercialisation de Mein Kampf, moi j'ai toujours défendu pour ce bouquin-là, mais pour d'autres aussi, que c'est un document historique important, qu'il est important de pouvoir le lire, que l'interdire, c'est le mythifier en quelque sorte. Et que je l'ai dans ma bibliothèque, moi je l'ai lu, et parce que je me suis intéressé à cette période, et j'ai voulu aller voir ce qu'est ce livre, très mal écrit, et voilà. Je voulais surtout comprendre pourquoi Mein Kampf, publié en français en 1933, si ma mémoire est bonne, à l'époque, Hitler voulait interdire l'édition française. Pourquoi ? Parce qu'il tape sur la France et que les Français qui auraient lu Mein Kampf se seraient dit « celle-là, ça va être pour nous ». Et il faut savoir que ceux qui m'ont aussi attaqué après, c'est-à-dire la CICAD, c'est-à-dire le bras armé, on va dire, de la communauté juive de Genève, l'équivalent à l'époque, en 1933, c'est la communauté juive française qui a imposé l'édition française en disant « il faut que les Français puissent lire ce livre ». Pour qu'ils comprennent ce que représente Hitler et ce qu'il est capable de faire. Donc, en fonction de la période, on se positionne différemment. Hitler ne voulait pas que le livre soit publié en français, et la communauté juive, c'était la LICA à l'époque, je crois. C'est juste ? En tout cas, avant la LICRA. Un peu l'équivalent, à imposer que ce livre puisse être lu. Et il est clair que si les Français l'avaient lu, peut-être qu'ils auraient perçu le risque du nazisme d'une manière différente. Donc, il faut lire les livres, y compris ceux-là. C'est ma morale à moi.
On n'est jamais trop informé dans un sens ni dans l'autre. Ce qu'il faut, c'est que le débat existe. Il ne faut rien laisser sous le tapis. On sait bien. Donc, on n'est jamais trop informé. Et ce n'est pas dans un lieu comme ça qui prône évidemment les valeurs humanistes qu'on le dira. Il faut tout lire. Il faut tout savoir. Il faut débattre de tout. Moi, je voulais juste revenir. C'était très intéressant, l'intervention de monsieur liée aussi à la guerre des Gaules, etc. Effectivement, tout texte est de la propagande. Ne serait-ce que parce qu'il transmet, qu'il porte la vision du monde de son auteur, les Harlequins, mais quelle propagande terrifiante, quelle vision de l'amour il y a dans la collection des Harlequins. Mais est-ce que pour autant quelqu'un s'est dit un jour, oulala, il faudrait voir pour interdire la collection des Harlequins, parce que quelle vision de l'amour les femmes de la génération qui les lisent vont avoir de l'amour. Donc, il faut partir de ce point de vue-là. Tout texte est propagande, mais à quel degré, et ensuite avec quelle intelligence de lecteur. Et moi, je crois en l'intelligence du lecteur avant tout, encore une fois.
Bon, il se trouve que pour une thèse très ancienne, j'avais lu aussi Mein Kampf. J'en ai gardé aucun souvenir. C'est un texte d'une intense médiocrité. Et je pense que si le nazisme et son idéologie doit encore avoir un... une influence sur quelques esprits, malheureusement toujours trop nombreux. C'est beaucoup plus à travers l'imagerie qui existe au sujet de cette période de l'histoire, des films, des photographies, leur reprise par des mouvements nazis qui risquent d'avoir une influence. Je ne crois très franchement pas beaucoup à une influence funeste liée à la diffusion désormais plus large de Mein Kampf. En revanche, alors je partage tout à fait le souci qui a été exprimé jusqu'ici de ne pas laisser ce document brut, c'est-à-dire qu'il est tout à fait indispensable, qu'il est peut-être non seulement un avertissement circonstancié, mais aussi des notes de bas de page expliquant un certain nombre de choses, explicitant aussi un certain nombre de références, si je me souviens bien que fait Hitler. C'est au fond, je dirais à la limite, c'est comme les œuvres du marquis de Sade. Il faut pas les interdire, naturellement, mais il vaut mieux quand même en faire la présentation et en faire une présentation critique. Par exemple, l'édition de la Pléiade, je trouve que c'est pas si mal dans le genre. Mais on va pas passer si aisément, malgré l'allusion à la collection Arlequin, des problèmes politiques aux problèmes de type relationnel entre hommes et femmes, par exemple.
Ce serait l'objet d'un autre café.
Parmi d'autres, c'est en effet un autre café, peut-être tout aussi intéressant et même davantage, mais enfin, c'est une autre histoire.
Est-ce que, à ce stade, oui, il y a madame qui a une question. Attendez que le micro juste arrive. Merci.
J'aimerais juste faire une remarque par rapport à Mein Kampf et à sa commercialisation. En fait, il est très disponible ici, dans les bibliothèques, y compris la bibliothèque de la Faculté des Lettres dans son édition allemande de 1937, je viens de vérifier, à la bibliothèque de l'Institut d'Ethno dans son édition française, à la BPU, au Locle, à Chaux-de-Fonds. Donc, il n'y a pas de restriction a priori sur le catalogue pour l'utilisation ou la lecture de cet ouvrage. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qu'on monte en épingle effectivement dans les médias parce qu'il y a un moment où ça intéresse. En tout cas, je veux dire, on a monté en épingle la commercialisation de ce texte sous format papier parce que c'est tout à fait vrai qu'il est disponible partout où on le veut et c'est tout à fait vrai aussi que c'est assez pénible comme lecture. J'ai essayé, je ne suis pas allée bien loin. Voilà, c'est tout.
Merci pour vous.
Sauf erreur de ma part, la partie préliminaire, si on a bien catalogué les trucs, ça fait 8 pages. Quoi. Voilà.
Monsieur, merci.
Oui, je voulais revenir sur les propos du professeur Aubert. Je suis absolument d'accord avec lui. Je pense qu'il est indispensable, quelle que soit l'horreur des faits, que ces faits soient racontés, qu'ils soient réellement raconté ou à travers un roman pour comprendre comment fonctionnait notre société avant nous. Je pense à l'horrible Gilles de Rais, par exemple. Eh bien, c'est fort intéressant de voir comme cet épouvantable bonhomme fonctionnait. La Révolution française. Mais c'est l'horreur quand on raconte que le peuple se promenait avec des piques, avec des têtes ensanglantées à leur sommet, mais c'est indispensable de savoir ça, ne serait-ce que pour se corriger ensuite.
Et il se trouve que la fiction rend les choses plus accessibles que l'essai. Nous sommes des êtres d'histoire, on a besoin d'histoire, on a besoin qu'on nous raconte des histoires, et ça, c'est ce que fait la fiction, et qui fait qu'effectivement, on peut replonger dans le passé et se comprendre nous-mêmes et comprendre l'histoire à travers des romans, de la fiction. C'est une technique d'accessibilité, d'un savoir, que sans doute, on n'aborderait pas, on ne chercherait même pas à en savoir plus si on devait lire des essais qui, par essence, sont plus abstraits, sont plus conceptuels.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que la fiction et les essais n'ont pas la même vocation et pas les mêmes règles. Un essai, un document, un ouvrage de sciences humaines se doit de respecter un certain nombre de règles scientifiques, d'approches, doivent, sinon ils sont mauvais. Mais alors que la fiction est beaucoup plus libre. Après, on espère que c'est bien écrit, bien structuré, qu'il y a du style, etc. Mais ce n'est pas la même fonction.
Non, la fiction,
c'est pas juste plus accessible.
La fiction peut rendre accessible le personnage de Gilles de Rais des périodes historiques. Elle peut parfois rendre accessible.
Mais elle peut se permettre de prendre des libertés, ce qui n'est pas le cas pour moi d'un ouvrage, d'un essai ou d'un livre de sciences humaines. Quand on lit, je viens de lire un livre qui s'appelle Terre de sang de Snyder, qui parle justement des 14 millions de morts dans cette région entre, disons, l'ouest de la Russie et l'est de l'Allemagne et la Pologne, les 14 millions de morts provoqués par Hitler et Staline, juste sur cet endroit-là, je veux dire, là, il n'y a pas la place pour l'imagination. Je veux dire, ça doit être rigoureux, ça doit être vérifiable, il y a des notes, ce n'est pas la même fonction, ce n'est pas qu'une question d'accessibilité,
mais
me semble-t-il.
Il y a quand même, moi, je ne suis pas d'accord pour dire que la fiction est libre et que l'essai ou la recherche intellectuelle serait soumise à des conditions rigoureuses, etc. Oui, l'essai et la recherche sont soumises à des conditions rigoureuses de réalisation, mais le choix du chercheur, au fond, il devrait être aussi libre que celui du romancier, de l'auteur d'une fiction. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un serait interdit de faire des recherches sur un certain nombre de sujets, parce qu'il s'agit de sujets, disons, propres à la controverse. En revanche, on entre là dans une question qu'on n'a pas encore abordée ou très peu, qui est, au fond, la succession des responsabilités. Je crois que le romancier est en effet, parlons de romancier, ou l'essayiste, ou le chercheur scientifique, sont en effet, chacun à leur manière et sur leur registre, extrêmement libres. Mais qu'à partir du moment où ils prétendent communiquer l'objet de leur imagination ou de leur recherche au public, ils doivent passer par des relais qui vont alors mettre en jeu un certain nombre de responsabilités. Le relais de l'éditeur, le relais du diffuseur, le relais du ou des médiateurs, ce peut être un bibliothécaire, ce peut être un enseignant, et enfin le relais ultime et un peu marginal des médias ou des journalistes qui vont à leur tour se saisir de l'objet. Et chacun, à sa manière, engage sa responsabilité. Et il y a un moment où doit se poser la question pour tous, est-ce que le créateur, le chercheur, n'a pas usé de sa liberté au-delà d'un seuil acceptable pour un temps et pour un lieu donné, et que la réponse est très difficile à établir. Dans le pré-questionnaire qu'ils nous avaient communiqué, on parlait d'un minimum de morale. Moi, je ne sais pas ni où situer ce minimum, ni comment le définir, ni à qui confier le soin de le définir, et moins encore de l'appliquer. Mais il n'y a pas de doute qu'il y a, à un moment donné, nécessité d'une concertation entre les différents acteurs, le romancier, le chercheur, l'essayiste, son éditeur, ses diffuseurs et les divers relais qui suivent, un consensus qui doit être trouvé. C'était d'ailleurs la conclusion fort intéressante d'une commission qui avait été mise sur pied en France et qui était présidée par Madame Blandine Kriegel. Ou Kriegel, je ne sais pas comment on prononce, Kriegel en France, je ne sais pas en France comment on l'appelle. Et c'était bien cette idée qu'il fallait trouver une sorte de consensus, d'acceptabilité. Alors, je crois que la discussion qui a lieu maintenant autour de de Mein Kampf et de sa diffusion publique sans contrainte particulière devrait permettre d'arriver à ce type de consensus.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, un pic?
Oui, je voudrais simplement noter deux choses. D'abord, vous avez parlé de la fascination, vous avez fait un inventaire un petit peu des crimes possibles et comment ils ont pu être montés en épingle. Hein. Mais là, vous étiez vraiment dans une description du fait divers et non pas de l'exercice littéraire, du comment la littérature va parler de ce fait. Voilà. Là, vous parliez du média. Et en fait, je crois que le média ne fait pas la littérature, mais du sentimentalisme, c'est-à-dire l'empathie à outrance pour produire de l'émotion bon marché. Et ça, normalement, l'auteur l'écrivain, alors de fiction ou d'essai, après les choses se posent un petit peu différemment, a comme devoir éthique, hein, j'insiste vraiment sur cette question de l'éthique, de mesurer son empathie et de toujours la mesurer par une forme de prise de distance. Et j'ai amené ce livre d'Emmanuel Carrère, qui je trouve est un exemple remarquable justement d'un exercice littéraire qui s'empare d'un fait divers. Donc il faudrait aussi différencier fait divers et crime contre l'humanité. Hein. C'est pareil, enfin, une des limites éthiques, il y a des choses qui ne sont pas comparables. Harlequin, Mein Kampf, pour moi, ce n'est pas comparable. Pareil chez Zebad, les victimes des ruines, les victimes des bombardements allemands ne sont des bombardements alliés en Allemagne ne doivent pas être comparés avec les victimes. Les lieux de comparaison doivent toujours être tenus par l'essayiste ou par le romancier. Et donc Carrère, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Justement, il raconte, vous connaissez l'histoire de Jean-Claude Roman, qui a tué donc sa femme, ses deux enfants et ses parents, parce qu'en fait, il leur a menti pendant 18 ans. Il a raconté qu'il était médecin.
Ça se passait dans la région, en plus, aux environs de Genève.
Oui, mais du côté français, mais oui, avec Genève. Et donc, il a assassiné tout le monde, et Carrère a voulu faire un livre sur lui. Et en fait, ce récit est celui d'un écrivain qui, aussi, à un moment donné, n'arrive pas à s'identifier. Il est toujours en train de se demander, mais alors, qu'est-ce que je vais faire pour raconter cette histoire qui me fascine, parce qu'elle est très ancienne, hein, fratricide, parricide, enfin, je veux dire, ça remonte quand même à... Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais dire « je » Et puis, alors, il écrit au détenu qui ne lui répond pas. Donc, il y a vraiment, parallèlement au récit de ce qui s'est passé, à partir des documents et de l'enquête qu'il a menée par la suite, il y a aussi toujours cette question qui, pour moi, est éthique, c'est comment je parle, comment je vais raconter, comment je m'identifie, comment je prends la distance critique. Voilà.
Il y avait aussi un aspect qui était évoqué par Jean-Jacques Aubert, c'était dans quelle mesure on prend des écrits des auteurs eux-mêmes et qu'on les publie. Est-ce que, à part, bon, on a parlé de Mein Kampf, est-ce qu'il y a une chance pour qu'un jour les 1500 pages de Breivik soient publiées in extenso? Enfin, elles existent déjà, hein, mais elles sont pas sous forme de livres.
On a eu les mémoires de Jacques Mesrine, hein, qui était l'ennemi public numéro un. Bon, voilà, enfin, il y a toujours un éditeur pour ça. Je veux dire que c'est sur la question du minimum de morale, moi, qui me pose problème, parce qu'elle n'a pas de sens pour moi. La morale n'a rien à faire là-dedans, parce que chacun a sa morale. On a régulièrement des réactions, vous ne devriez pas vendre ceci, vous devriez... Ça va de tout à tout. Chacun a sa propre morale. Moi, je me rappelle une fois, nos libraires choisissent eux-mêmes de faire un sujet en vitrine. La librairie de Lausanne avait fait une vitrine sur la chasse parce que c'était la période de la chasse. Bon, moi, ok, il y a des gens qui pratiquent. J'ai reçu une lettre d'un mouvement anti-chasse, du genre, c'est un scandale, vous ne devez pas faire ça. Moi, personnellement, ça ne sortira pas d'ici, je suis anti-chasse. Mais en même temps, la chasse n'est pas interdite. Et la limite, elle est là pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce n'est pas à nous de nous substituer aux censeurs, on n'est pas des censeurs, on n'a pas à se substituer au droit. Si un livre dépasse un certain nombre de frontières, de diffamation, d'apologie de je ne sais pas quoi, de racisme, de tout ce que vous voulez, de n'importe quelle chose répréhensible, il y a des lois. Et à partir de là, c'est aux législateurs et à la justice de faire leur travail en disant ce livre-là, voilà. Nous, on n'intervient pas par rapport à ça. Mais ce n'est pas une question morale. La morale est indéfinissable et le minimum de la morale encore plus, à mon avis. Donc, c'est pas... Quant à ce que vous dites sur le devoir éthique de l'auteur, ça me semble être à la fois juste, mais dans la pratique, non. Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de charte de devoir éthique de l'auteur. C'est drôle, on est en fait sur une question sur la mission et l'art et la beauté, etc. Le livre, c'est quoi? C'est une représentation du monde. S'il n'y avait que Paul Guth à lire, ce ne serait pas drôle non plus. Je veux dire, on ne peut pas être juste dans un pays naïf où tout est beau, on n'est pas dans Walt Disney. Le monde, il a ses beautés, il a ses horreurs, et le livre, les livres, et là, quel que soit le genre, sont le reflet de ce qu'est le monde, rien d'autre. Donc à partir de là, on ne peut pas attendre des livres qui nous peignent toujours un monde où tout va bien, où tout le monde s'aime, où personne ne se fait assassiner, où il n'y a pas de génocide. C'est juste la représentation réelle du monde.
Vous permettez? Oui. J'aimerais quand même ajouter quelques mots. Je suis d'accord nous sommes d'accord sur la question de cette difficulté à définir un minimum de morale ou un seuil de morale, etc. Nous sommes d'accord aussi sur le fait que, prioritairement, il existe un encadrement légal en Suisse et ailleurs, mais parlons de la Suisse. Depuis 1990, il existe un article 135 du Code pénal. Il est vrai, conçu essentiellement pour, à l'époque, au sujet des cassettes vidéo, c'est-à-dire de l'image et de l'image animée. Je me réfère à mon texte de préparation, parce que là, je ne peux pas le dire de mémoire, qui, au fond, punit d'emprisonnement ou d'amende toute personne qui aura été mêlée à la présentation d'actes de cruauté envers des hommes ou des animaux, portant gravement atteinte à la dignité humaine sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de ce nom. Alors c'est intéressant en soi, puis ça l'est aussi parce que le livre est exclu de l'application de cet article. Il l'a été explicitement par le Parlement fédéral qu'il ne voulait pas de cette façon introduire une manière de censure de l'œuvre littéraire. Mais comme le droit est malicieux, curieusement, la lecture publique d'un livre ou une représentation théâtrale à partir d'un texte littéraire écrit, alors là, ça entre dans le domaine de l'application de l'article. En fait, ce que vise cet article, c'est essentiellement l'évocation de la violence pour la violence. Donc la violence gratuite. D'autre part, il existe des dispositions, comme nous savons, concernant la discrimination, concernant l'incitation à la haine, l'incitation à la haine raciale, etc., qui sont des articles pénaux qui peuvent fort bien s'appliquer, aussi bien d'ailleurs à des essais, Garaudy est un exemple, qu'à des créations littéraires. Je n'entre pas dans la catégorie de l'audiovisuel parce qu'on quitte le livre, mais il faut savoir que la loi sur la radio-télévision, elle, ne fait pas tellement de distinction entre ce qui est fiction, ce qui est information, on ne parle évidemment plus de livre, mais d'images et de discours, et que néanmoins, des limites sont posées qui sont liées à l'esprit même de la concession délivrée par les autorités fédérales qui notamment se soucient du respect des droits de l'homme et se soucient de la protection de la jeunesse. Donc il y a quand même des limites. Mais sur la question de la morale, moi je me pose quand même des questions. Aujourd'hui, le discours tendance, c'est de dire mais la morale, écoutez, vous nous cassez les pieds avec la morale, je suis bien placé pour l'entendre, vous nous cassez les pieds avec la morale en politique. On ne fait pas de la politique avec de la morale, on vise l'efficacité, on vise le succès, on vise le résultat. Les problèmes moraux, c'est tout à fait secondaire. Et j'aime bien rétorquer à ces gens-là une phrase qui est tirée de la condition humaine d'André Malraux, qui reprend exactement cette accusation, qui dit « On ne fait pas de la politique avec la morale, mais on n'en fait pas davantage sans. » Et quant à la création artistique, j'aurais tendance à tenir le même discours. On ne fait pas, on disait qu'on ne fait pas de la littérature avec des bons sentiments, c'était Gide, je crois. C'est vrai qu'on ne fait pas, on ne crée pas des œuvres d'art avec de la morale, mais en quoi je rejoins Madame Pic, mais peut-on vraiment créer une œuvre d'art sans morale? Seulement, il faut s'entendre. Qu'est-ce que c'est la morale? Si on considère la morale comme les 10 commandements, comme une sorte de catalogue de préceptes qu'il faut absolument appliquer et que j'appellerais le moralisme, alors en effet, je suis d'accord. Mais la morale, c'est aujourd'hui, je crois, dans notre société, davantage quelque chose qui part ou arrive à une interrogation éthique. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bien? C'est aussi dans cette interrogation que se situe, à mon avis, la distanciation nécessaire qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, il ne faut pas confondre morale égale éthique et morale égale moralisme. Voilà.
Pour moi, clairement, la morale d'un écrivain, c'est d'être un bon écrivain. C'est sa seule morale, c'est la seule chose qui doit le guider. Être un bon écrivain, c'est faire avancer la cause de la création littéraire, c'est se poser la question, est-ce que j'intéresse mon lecteur ? Est-ce que les questions que je soulève sont pertinentes ? Est-ce que mon geste artistique est pertinent, est profond, est dense, est intelligent ? S'il faut parler de morale en termes d'art, c'est uniquement dans ces termes-là. Tout le reste du champ de la morale, effectivement, n'a strictement rien à voir avec le champ de la fiction. C'est pas le même langage.
Oui. Non, mais moi, je voulais pas parler d'un... Enfin, je veux pas dire que la littérature doit... Déjà, je ne pense pas que la littérature peut représenter tout le réel, là, comme vous disiez, ni que la littérature a pour charge de représenter un monde de bisounours, hein, si j'ose dire. Vraiment, j'insiste encore, c'est l'idée du comment. Comment on s'y prend. On peut parler de tout, et c'est souhaitable. La tragédie avait une fonction éthique qui était la catharsis, donc c'était orienté d'une certaine manière. Simplement, il y a le comment qui est là. Comment on s'implique, soit quelle prise de responsabilité on a par rapport à certains événements qu'on va raconter, dont on va nourrir son texte, surtout quand ce sont des événements de ce type-là. Hein. C'est tout. Et je pense que c'est pour ça que cette question de l'empathie avec son objet est un des endroits, je pense, où on peut saisir cette question de l'éthique. Moi, je dis éthique parce que morale est souvent rattachée tout de suite au discours religieux, alors que éthique, c'est l'éthos, c'est l'être. Et pour moi, l'éthique, c'est vraiment, elle commence tous les jours. Enfin, c'est vraiment la prise de responsabilité de chacun par rapport à autrui. C'est quelque chose qui nous regarde vraiment de manière extrêmement personnelle, mais qui doit avoir un rayonnement au niveau de la cité, en fait, et au niveau de l'exercice littéraire. Et tout à l'heure, je parlais d'ailleurs pas de l'empathie avec du lecteur, avec l'ouvrage, parce que vous me disiez, oui, je crois à l'intelligence du lecteur, mais oui, moi aussi, hein. Quoique on sait bien, on se souvient de Don Quichotte. Don Quichotte, c'est quand même le récit de ce que peuvent faire les livres sur un individu qui devient complètement détruit par ses lectures. Donc je pense que ça reste quand même, qu'il ne faut pas minimiser non plus, ça ne veut pas dire qu'on pense que le lecteur n'est pas intelligent si on ne se pose pas la question du pouvoir de la littérature.
Des réactions ? Oui, monsieur, peut-être le micro. C'est pour l'enregistrement surtout.
Moi, j'aurais juste voulu savoir si, de votre point de vue, il existe des fictions dangereuses. Terme un peu provocant, mais c'est pour dire, est-ce que, au fond, vous croyez à ce que, plus d'ailleurs la fiction que l'essai, puisse avoir une influence néfaste ? On sait que au XVIIIe siècle, on accusait un roman de Goethe, les souffrances du jeune Werther, d'être responsable du suicide de milliers de jeunes gens. Là, par exemple, j'ai repensé à... On avait dit au moment de l'attentat de Breivik en Norvège qu'il avait été influencé par un livre de fiction américain raciste et faisant l'apologie du racisme et de l'extermination des Noirs, des Juifs, etc. Et... bon, ce livre est bien sûr interdit en Europe. Voilà, je me demandais est-ce que finalement la fiction, on a vu des points de vue très libéraux, hein, de M. Vandenberg, de Mme Falconier, mais est-ce que, voilà, au fond, il reste cette question qui n'est peut-être pas résolue depuis deux siècles, est-ce que la littérature peut avoir un effet néfaste ?
De mon point de vue, aucun livre n'est dangereux, c'est le lecteur qui le rend dangereux en fonction de la lecture qu'il en fait. On va lire le même livre et puis vous allez devenir un assassin en puissance, c'est clair, surtout en étant journaliste. C'est pas mon cas. Donc c'est le lecteur qui... C'est bien ça la force de ça, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, si on lit le même livre, on va en tirer des choses différentes. C'est donc le regard du lecteur. C'est pour ça que ce n'est pas le livre en lui-même. Qu'après, il y a des précautions à prendre, un certain nombre de précautions à prendre dans certains cas. On l'a vu pour Mein Kampf, par exemple. Là, on est dans quelque chose de lourd, hein, bien entendu. Maintenant, sur l'influence, il y a des... aujourd'hui, dans la recherche, il me semble, de ce que j'ai lu, il y a des personnes qui pensent effectivement qu'un film, un jeu vidéo peut amener à... Mais moi, j'ai lu des théories inverses qui disent que pour des personnes qui ont des pulsions, ces films, ces livres, ces jeux vidéo deviennent des exutoires qui, justement, vont les empêcher, parce que ça va suffire, finalement, à gérer leurs pulsions, et ça va, finalement, les empêcher de passer à l'acte, parce que cet exutoire est suffisant. Voilà. Mais sur la question du danger, de la dangerosité d'une œuvre, vous savez, on peut sortir hein, de la notion un peu de cruauté, de meurtre, de choses, mais on peut parler de sexualité, c'est aussi toujours plein de souffre. La lecture qu'on fait, elle est fondamentale. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu un scandale dans beaucoup d'endroits parce qu'un roman au seuil à la rentrée utilisait ce célèbre tableau de Courbet, La naissance, la création du monde, la création du monde hein, en France. Il y a moins de 10 ans, on est au 21e siècle. Il y a des librairies qui ont été saccagées par des catholiques. Cette interprétation-là, chacun fait la sienne. Mais effectivement, juste pour terminer, je suis d'accord avec la distinction qu'on fait entre l'éthique et la morale. Même si je trouve qu'aujourd'hui, il y a une tentative de récupération de l'éthique par la religion, très sensiblement, ici aussi d'ailleurs, par les protestants, je trouve, qui veulent s'approprier, question de marketing, cette notion d'éthique, alors qu'elle est fondamentalement, elle peut être fondamentalement laïque, ce qui est moins évident avec la morale.
Rapide mise au point après. Conciliabule avec ma voisine, c'est l'origine du monde, hein, le tableau de Courbet, donc ni la création ni la naissance, mais l'origine du monde. Tout à l'heure, Madame Pic a parlé de la catharsis, et effectivement, on vient de dire que c'est la façon d'exprimer, de laisser s'exprimer ses pulsions, de au fond purger ses passions, par opposition à ce qu'on appelle toujours en grec la mimesis, c'est-à-dire l'imitation. Et les débats auxquels on a fait allusion sont nés au début du XXe siècle, très fortement. C'est vrai que l'effet Werther et le roman de Goethe avaient suscité débat, mais la vraie discussion, entre guillemets, scientifique, on est dans les sciences humaines, a eu lieu à partir de la naissance du cinéma et s'est régénéré fortement avec la télévision. Et c'est une discussion qui, au fond, prend beaucoup moins pour appui la création littéraire que l'image, et notamment l'image animée. Et c'est dans ce domaine qu'on voit périodiquement que tel ou tel film extrêmement violent, genre Seven ou Born to Kill, To Be Killer, ou je ne sais plus exactement quel était le titre, peut susciter quelques émules. Et alors là, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, en effet. Mais je vous recommande un des premiers en français, qui est fort ancien, qui, je crois, a été publié en 1966 dans la revue Communication par quelqu'un qui est devenu par la suite célèbre, qui était alors un très jeune chercheur, et qui s'appelle André Glucksmann. Glucksmann a écrit un très intéressant et très solide article sur cette opposition entre catharsis et mimesis, dans lequel, notamment, il relevait que l'image proposée de la violence comme modèle fonctionnait rarement de façon indépendante et qu'elle, au fond, n'avait de véritable effet que pour autant que d'autres conditions, par exemple sociales, politiques, permettent l'accomplissement de cette violence, ou alors que le sujet soit particulièrement fragile, vulnérable, et c'est pourquoi si on devait un jour trancher ou pencher plutôt du côté d'un risque d'influence néfaste de la part de la fiction cinéma, de la part de l'image télévisée, etc., ce serait plutôt à cause de cette vulnérabilité, notamment de la jeunesse.
Juste deux choses. D'une part, n'oublions pas que la littérature sauve des vies aussi. La littérature apporte des choses évidemment très très positives. Il y a même, je crois, au Canada, où les médecins donnent des sortes d'ordonnances de livres bonheur, parce qu'effectivement, on trouve dans des livres, que ce soit des romans ou des essais, des choses qui nous tirent vers des choses positives et qui ne nous poussent pas forcément à tuer femmes, enfants et voisins. L'autre chose, c'est on calcule souvent, on dit, mais c'est ce livre qui a déclenché ça. Mais souvent, c'est en amont que ça se passe. C'est-à-dire, l'œuvre d'art est toujours influencée, elle-même est une émanation de son temps. Si les souffrances du jeune Werther de Goethe auraient suscité une vague de suicides. Mais c'est bien parce que Goethe a écrit quelque chose, il a saisi quelque chose qui se passait déjà dans l'époque. C'est pour ça que son livre a été un succès phénoménal. Il l'aurait publié un demi-siècle ou même 20 ans avant. Le livre n'aurait peut-être connu aucun succès, n'aurait pas été lu, n'aurait pas été suivi de conséquences. C'est l'œuvre d'art saisit déjà souvent quelque chose qui se passe dans, c'est une émanation de son temps. Elle saisit quelque chose qui se passe déjà à l'intérieur de la société. Et donc, il y a un effet d'écho. C'est pas l'un, c'est un processus de miroir sans fin. L'œuvre d'art fait écho à la société fait écho à l'œuvre d'art. C'est inextricable. Il n'y a pas de coupable. C'est un peu un faux débat en matière de création artistique, je trouve.
Est-ce qu'il... Oui.
Voilà, excusez-moi de reprendre la parole, mais je suis inspiré par une remarque de M. Vandenberg et puis parce que je viens d'entendre de Mme Falconier. Nous parlions tout à l'heure de Mein Kampf et vous étiez assez d'accord, je crois, entre vous pour dire que oui pour Mein Kampf en version livre, mais accompagné d'une introduction, d'un commentaire, de notes de bas de page. Personnellement, je ne crois pas. C'est un peu paternaliste de vouloir guider le lecteur dans la lecture de Mein Kampf. Et puis finalement, si on voulait partir dans cette direction-là, est-ce qu'on ne devrait pas aussi accompagner la Bible ? Je me permets d'être un peu provocateur pour mon ami Claudine Assad. Est-ce que la Bible ne devrait pas être accompagnée elle-même d'un commentaire et d'une introduction, mais donc une qui soit acceptable et pas une multiplicité d'introductions et de commentaires ? Parce que finalement, si on regarde la Bible, eh bien, à travers les 20 siècles, 25 siècles de lecture, on peut dire qu'elle aura fait peut-être plus de morts que Mein Kampf, n'est-ce pas ? Donc, de nouveau, et puis là je rebondis sur ce que disait Mme Falconier, c'est oui, peut-être au moment de la production artistique, c'est disons, l'œuvre littéraire, qu'elle soit fictive ou réaliste ou historique, eh bien, reflète son temps, mais l'œuvre littéraire est destinée à demeurer. Si vous lisez la Bible, elle était peut-être représentative du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais la manière dont elle est lue au 20e ou au 21e siècle est très différente, elle est lue dans un contexte différent. Demandez par exemple aux associations donc, de défense des homosexuels, n'est-ce pas, comment ils envisagent la lecture de la Bible, eh bien, c'est probablement très différent de celle qui était de l'Antiquité, qui était faite dans l'Antiquité.
Bah, sur Mein Kampf, moi je suis pour une annotation qui est une mise en perspective et une explication scientifique des choses, pas d'une connotation, pas des notes morales, si vous voulez. C'est utile, et je suis d'accord avec vous pour la Bible. Tous ces ouvrages, effectivement, doivent s'accompagner d'un certain nombre de notes, de notes de bas de page, on peut les appeler, qui vont expliquer, au-delà de ce qu'on lit, un certain nombre de choses. Mais oui, je pense que c'est utile. Enfin, vous savez, moi, quand je prends un livre, quand je lis beaucoup de livres d'histoire ou de sciences humaines, la première, les choses que avant de lire le livre, ce que je regarde d'abord, c'est les notes de bas de page et la bibliographie. Et ça me permet déjà de juger de la qualité du travail. Un livre de sciences humaines qui n'a pas de notes de bas de page et une bibliographie qui tient en une page, en général, je considère que je n'aurai pas à le lire. Voilà. C'est une manière de s'approprier les livres. C'est la mienne.
Vous posez une question intéressante. Et c'est un ancien théologien qui vous répond. J'ai décidément tous les défauts. Il existe d'innombrables commentaires de la Bible qui ne sont pas insérés dans le volume publié, parce qu'alors, ce serait... Oui, on peut parler encore d'autres textes sacrés, mais parlons de la Bible, qui ne sont pas insérés, parce qu'alors ça donnerait à l'ouvrage matériellement des dimensions absolument immaîtrisables. Mais qui s'intéresse à un livre particulier de l'Ancien ou du Nouveau Testament peut fort bien trouver dans ces livres d'exégètes, de gens qui expliquent le sens du texte, des réponses aux questions qu'il se pose. Maintenant, cum grano salis, je pourrais dire aussi que si on imposait une édition de la Bible assortie de commentaires de tous ceux qui pourraient commenter, on risquerait de faire autant de morts que ceux que vous avez cités précédemment. Vous voyez, c'est assez compliqué.
Donc oui, je vais répondre à cette provocation qui compare la Bible et Mein Kampf. Puisqu'il le faut. Comme effectivement la Bible a déjà été amplement commentée, hein, elle est déjà dans les manuels scolaires d'histoire donnée comme document. Et puis, enfin, le commentaire aussi est appelé pour une autre raison, c'est que la question de l'auteur se pose pas du tout de la même façon sur Mein Kampf et sur la Bible, tout simplement. Hein. Donc la question de l'appareil critique, de l'appareil de notes est tout autre. Hein. Voilà, tout simplement.
S'il n'y a pas encore une dernière remarque, moi j'aurais juste une dernière question qui avait déjà été évoquée auparavant, c'est le facteur temps par rapport à un fait qui s'est déroulé. Là, il semblerait que l'histoire de Richard Millet, c'est parce que ça venait vraiment très tôt après les faits que ça a suscité un tel tollé. Est-ce que, à votre avis, le facteur temps pourrait être rédempteur comme ça a été dit précédemment, et qu'on pourrait plus facilement accepter des œuvres émanant de criminels qui sont disparus depuis longtemps ou qui sont au moins morts, parce que, enfin, au moins, c'est un peu cruel, mais disons que d'un point de vue strictement personnel, moi j'ai moins de peine à accepter quelque chose, un écrit dont je sais que l'auteur de crime est mort ou bien a été tué. Ce qui n'est pas le cas de Breivik. Il est tranquillement au fond de sa cellule, ne risque pas la peine de mort, et il pourrait voir son œuvre se réaliser en toute quiétude, si j'ose dire.
Moi, je ne dirais pas rédempteur, en aucun cas rédempteur, mais ce dont on n'a que très peu parlé au cours de ce débat, ce sont les victimes. Moi, je pense que le vrai problème que posent ces livres, c'est les atteintes potentielles à des victimes, à des proches de victimes encore vivants, eux. Hein, et ça, c'est d'une certaine façon assez difficilement acceptable. Alors, on ne va pas interdire à un auteur de commettre ce type d'atteinte. Je dirais même que je ne vois pas pourquoi il faudrait établir des censures particulières autres que les censures légales, qui peuvent encore une fois fonctionner dans certains cas, mais il faut en tout cas que ces publications-là soient assorties d'un débat critique extrêmement approfondi. Je pense que le livre de Millet a suscité ce type de débat. Je pense que un tel acte ne peut pas passer impunément sous la seule raison de la liberté du penseur ou de la liberté, pour un autre ouvrage, du romancier. Il faut qu'il y ait un répondant dans la société. C'est là que je pense que le consensus qui pourrait s'établir entre les divers acteurs de la diffusion artistique, particulier du livre, est très important. Il faut qu'il y ait un accord. Vous ne pouvez pas empêcher des gens de rester fascinés par ce genre de choses. S'ils ne le sont pas par celle-ci, elles le seront par d'autres. Mais cette notion, et c'est en quoi je suis quand même au fond d'accord avec l'exigence éthique de la part d'un créateur ou d'un essayiste, c'est la prise en compte, et encore une fois, ça passe par une réflexion, pas par des préceptes, mais la prise en compte de la vulnérabilité des gens auxquels on s'adresse ou des gens auxquels on parle. Et ça, c'est c'est quelque chose qui est, à mon avis, assez important. Et puis, on peut se rappeler quand même ce que disait Kant en disant qu'il fallait voir en tout être humain une personne et non pas un objet. Je crois que l'atteinte à la vulnérabilité commence quand on considère ce dont on parle, être humain, animaux, symboles religieux ou autres, comme de simples objets. Et là, moi, ça me pose en tout cas une question éthique assez forte.
Oh. Est-ce qu'il y a des questions encore, des remarques? Sinon, je vais peut-être demander à chacun des intervenants de nous donner le mot de la fin, la conclusion, ce qu'il a retenu de cette heure et demie de discussion et son sentiment par rapport à cette question très, très sensible des œuvres qui sont commises par des auteurs d'actes atroces. Voilà, alors, on va peut-être faire le même tour de table dans le même ordre qu'on avait commencé.
Donc, non, je rebondis sur la citation de Kant donnée par M. Cornu. Effectivement, des hommes, pas des objets, pas des choses, mais on peut dire cela, effectivement, des victimes, mais également, dans le fond, des... Et là, malheureusement, des tueurs. Et ce qu'on reproche souvent aux écrivains, qui est « mais vous faites de ce monstre un héros ». Non, ce n'est pas parce que c'est le personnage principal d'un livre que c'est un héros. C'est un personnage et c'est un humain, c'est un frère humain qu'il faut essayer de comprendre. Et c'est pour ça que jusqu'au bout, effectivement, je trouve... justifier, importante, les tentatives de comprendre ces hommes, que, aussi monstrueux qu'ils soient, de Gilles de Rais à Andrés Breivik, ils ont commis, qui souvent, on l'oublie aussi, c'est le résultat de souffrance. Et la souffrance est une émotion humaine des plus basiques. Ensuite, ce qu'ils en ont fait leur appartient, mais ça nous appartient d'essayer de le comprendre.
Oui, mais moi je parle vraiment, encore une fois, on parlait de littérature. Donc c'est comment la littérature, à partir de tout ce que vous venez de dire, prend en charge le fait de faire demeurer entre les pages d'un livre, de conserver et de diffuser et, un fait dont il peut être, qui peut être le résultat effectivement d'une souffrance. Etc. etc. Ça, c'est sûr. Mais la question, enfin, pour moi, pendant tout ce débat, c'était savoir comment la littérature doit se positionner par rapport à ces faits et quel peut être son rôle, comment l'exercice littéraire peut avoir une portée, un pouvoir, intervenir dans une éthique ou pas. Enfin, voilà, pour moi, c'était vraiment... Je suis toujours restée dans le domaine de la littérature et non pas directement donc dans ce second temps, finalement, toujours dans l'après. Voilà. Et alors, curieusement, quand vous dites « avec le temps, on accepte mieux... on accepte mieux les choses », oui, c'est vrai. Avec le temps, on accepte mieux les choses. Mais justement, souvent, la littérature reprend en charge des crimes anciens pour nous les remémorer dans une fonction de mémoire effrayant aussi. Donc, pour éviter de recommencer, ou pour, il y a quand même cette fonction, pour pas qu'on perde mémoire, justement. Toute l'écriture, toute la littérature de la Shoah, elle est là pour empêcher l'oubli. Pour empêcher que dans des siècles, on refasse encore un génocide. Hein, sachant qu'il y en a eu un encore dans le territoire européen en 1996 déjà, de massacres ethniques. Voilà, c'est tout.
Oui, on peut même dire qu'il y en a eu avant aussi. Les Indiens d'Amérique du Nord, ça ressemble fortement à un génocide aussi. Moi, je vais, pour conclure, plutôt vous donner un petit conseil de lecture, si je peux me permettre.
Voilà. Vous êtes là pour ça.
Non, moi, il y a un petit livre que je cite souvent parce que je pense qu'il est intéressant. C'est un auteur belge qui s'appelle Raoul Van Eghem. On l'a connu dans les années 70 avec un livre qui s'appelait « Le manuel à l'usage des jeunes générations ». Mais il a fait plus récemment un livre qui a été réédité il y a peu de temps qui s'appelle « Rien n'est sacré ». Désolé pour les théologiens. « Rien n'est sacré, tout peut se dire ». Et où il explique, lui, que la contestation des idées néfastes se fait par le débat et la discussion. Et par l'intellect, et certainement pas par l'interdiction et la censure. Voilà. Et je suis fondamentalement de cet avis, parce que je ne l'ai pas dit encore, mais c'est quelque chose que je défends aussi, c'est ce qu'a dit Isabelle. Moi, je considère le lecteur comme responsable et conscient, et je ne peux pas me permettre de décider à sa place ce qui est bon pour lui à lire. Mais en tout cas, sur le fond, effectivement, les idées néfastes se combattent par les idées, et certainement pas par l'interdiction, ni par la violence, ni par l'empêchement d'expression de ces idées.
Daniel Cornu.
Alors, j'ai envie de dire que j'ai déjà donné ma conclusion en parlant de la vulnérabilité. Naturellement que j'adhère à ce qui vient d'être dit, puisque je me semble avoir dit auparavant, c'est qu'il fallait une discussion. Et dire qu'il faut une discussion, ça veut dire qu'on ne va pas accepter la création, quelle qu'elle soit, bouche bée, parce qu'elle a le droit de citer un point, c'est tout. Non, je crois qu'il faut vraiment que cette discussion ait lieu, que des interrogations éthiques soient posées. Puis ma deuxième conclusion, elle n'a vraiment rien à voir avec le débat. Mais tout à l'heure, Madame Pic vous a cité le nom d'un auteur qui s'appelle Wilfried Georg Sebald, en citant un ouvrage de caractère plutôt historique que je n'ai pas lu. Mais j'ai lu tous ses romans. Je vous recommande. C'est un auteur extraordinaire. Qui est mort aussi bêtement que Roland Barthes, c'est-à-dire qu'il s'est fait renverser à Londres, il était professeur de littérature comparée, il s'est fait renverser, je crois, par un autobus ou une voiture, peu importe. Il a écrit des livres admirables, qui à la fois, au fond, témoignent d'une maîtrise littéraire extraordinaire. Il y a toujours une mise en rapport avec des images qui sont apportées au texte, parfois sans relation directe, parfois avec une relation très, très explicite. Et je vous recommande en particulier un livre absolument magnifique qui s'appelle Austerlitz, qui n'est pas la bataille que vous croyez, mais qui est le nom d'un jeune homme qui a fui, sauf erreur, c'était la région des Sudètes, en tout cas la région germanophone de la Tchécoslovaquie, pour échapper au nazisme. Il a été réfugié à Londres. C'est un livre superbe, un des grands livres de la deuxième moitié du XXe siècle. Je prends mes responsabilités, chère madame. Je ne suis qu'un lecteur.
Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir animé ce café scientifique. Donc, je crois qu'on peut applaudir nos intervenantes et nos intervenants. Vous annoncez encore que le 23 octobre prochain, on vous redonne rendez-vous ici même pour un tout autre sujet, circoncision, lésion ou religion. Voilà, on sera aussi dans le vif avec un sujet chaud. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt.